et France 24 présente
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons Marlène Schiappa. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Donc, vous avez accepté notre invitation. On va parler du coronavirus qui est à la une de l'actualité partout dans le monde. Le virus s'étend et se propage. Au gouvernement, le ministre de la Culture, Franck Riester, est testé positif et en confinement chez lui. On attend le résultat concernant la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Et puis, à l'Assemblée nationale, 5 députés sont touchés, ainsi que 3 personnels. Vous avez été en contact donc avec votre collègue ministre de la Culture. Vous l'avez vu au Conseil. Est-ce que vous avez été testé ?
Non, alors d'abord, je me permets d'adresser mes vœux de prompt rétablissement à Franck Riester, avec qui j'ai échangé par texto. Et il nous a dit qu'il était effectivement malade du coronavirus, mais qu'il s'estimait être plutôt en forme, ce qui est plutôt rassurant. Je n'ai pas été testée puisque je n'ai pas de symptômes. Donc je rappelle que généralement, le principe, c'est faire en sorte que lorsqu'on n'a pas de symptômes, on ne se fasse pas tester, sauf si on est par exemple un professionnel de santé ou en contact avec un nombre conséquent de personnes. Mais moi, je n'ai pas de fièvre à ce stade, en tout cas, je touche du bois, je n'ai pas de symptômes du coronavirus. Donc même si j'étais en contact avec Franck Riester, je n'ai pas de raison d'être testée à ce stade.
Mais le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, lui, n'est pas malade, mais il a été en contact avec un malade et il est en confinement. Et vous avez été en contact avec Franck Riester. Alors, on peut être sûr que vous ne nous mettez pas en danger aujourd'hui ?
Alors, d'abord, on n'est jamais sûr que vous ne nous mettez pas en danger. C'est le principe des virus. Oui. La circulation du virus est faite de cette manière. Moi, je n'ai pas été en contact rapproché avec Franck Riester. Oui. Nous avons partagé des réunions. Nous nous sommes salués, nous avons discuté. Mais vous savez, pour que le virus circule, il faut être à moins d'un mètre de quelqu'un, donc quand même assez proche dans son espace personnel, et ce, pendant une durée assez longue. Et chaque personne malade infecte environ 2,5 personnes. Donc, quand on est dans une salle avec 5000 personnes et qu'il n'y a qu'un malade, le malade ne va pas contaminer les 4999 autres personnes. Donc, je pense qu'il faut être assez rationnel. Par ailleurs, c'est un virus qui, très majoritairement, n'est pas mortel. Il faut être vigilant pour les personnes qui sont fragiles, pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des difficultés de santé importantes. Mais les femmes qui sont en bonne santé globale et dans la force de l'âge n'ont pas particulièrement de raison de se confiner chez elles face au coronavirus.
On peut imaginer un jour une vidéoconférence d'un conseil des ministres, hein, parce que le président de la République, lui, est en première ligne. Il était ce matin avec le SAMU. Est-ce que tout ça est bien prudent, on a envie de dire ?
Oui, bien sûr, mais le président de la République est très mobilisé. Il est tout à sa tâche et on n'a plus que jamais besoin d'avoir un gouvernement, un président mobilisé, mais je crois qu'il y a des consignes d'hygiène et de sécurité qui sont prises, qui sont très strictes. J'étais à une remise de décoration à l'Élysée pas plus tard qu'hier soir et je peux certifier qu'il y a des mesures qui sont prises, y compris de nettoyage des mains de toutes les personnes qui rentrent, de ne pas rentrer dans l'espace.
Pourtant, on disait qu'il n'y a plus de visite à l'Élysée.
Alors, depuis aujourd'hui, mais vous savez, c'est quelque chose, je vous parle d'hier, et en fait, on est dans un timing qui évolue de manière considérable. Les mesures qu'on a indiquées hier sont valables pour aujourd'hui. Elles sont de nature à progresser parce qu'en fait, on a une recherche scientifique importante en France. On a des professionnels de santé très mobilisés et sous l'égide d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, du président et du Premier ministre, toutes les mesures sont agiles et sont de nature à bouger en fonction de l'évolution du virus.
Alors justement, on a Olivier Véran comme ministre de la Santé et on a Emmanuel Macron aussi super président ministre de la Santé également. On a deux ministres de la Santé en réalité.
Bah, je crois que là, non, on a un ministre de la Santé qui est Olivier Véran, qui est d'ailleurs très rapidement, si vous me permettez cette remarque, rentré dans le costume de ministre de la Santé. Il a été médecin...
Compte tenu de l'urgence, il n'en avait pas le choix.
Parfois, on n'a pas le choix et parfois, c'est raté, pardon de le dire.
Même mais si c'est le pas monde.
Je ne suis pas réputée pour avoir beaucoup de langue de bois ou j'aurais éludé le sujet.
Vous voulez dire qu'il fait bien le travail.
Oui, honnêtement, on a un ministre qui est très rassurant, qui sait de quoi
plus
il parle.
Plus qu'Agnès Buzyn.
Non, ce n'est pas une question de plus ou moins. La question, c'est que c'est lui qui est là maintenant et on peut se réjouir que ce soit Olivier Véran, qui soit notre ministre de la Santé, qui est très pédagogue. Et ça, c'est salué unanimement, quels que soient les bords politiques au demeurant.
Le président de la République souhaite une plus grande coordination européenne pour lutter contre le coronavirus. Mais qu'est-ce que ça signifierait? Parce que est-ce que ça voudrait dire que il faudrait par exemple que les pays européens prennent les mêmes mesures? On voit bien qu'à l'heure actuelle, ça n'est absolument pas le cas. L'Italie a pris des mesures absolument drastiques de confinement. La vie économique du pays est quasiment en train de s'arrêter. Ça n'est pas du tout ce que fait la France, même si le nombre de personnes touchées augmente quand même de jour en jour, et que rien n'indique qu'on ne sera pas dans quelques jours dans la situation qui est aujourd'hui celle de l'Italie.
Bien sûr, je pense qu'il faut être très prudent dans la gestion du coronavirus, mais néanmoins ne pas céder non plus à la panique. La France fait des choix qui sont basés sur la raison, basés sur la science, basés sur un principe de précaution, mais également sur les résultats scientifiques de propagation du coronavirus. Et si chacun d'entre nous respecte parfaitement ce qu'on appelle les gestes barrières, on ne le répétera jamais assez, mais se laver les mains toutes les heures avec de l'eau chaude et du savon pendant au moins 30 secondes, en frottant véritablement ses mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, ne pas se serrer les mains et respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. Si chacune et chacun d'entre nous fait cela, on arrivera déjà à freiner la propagation du coronavirus. Et au niveau européen, ce qui est très important, c'est effectivement d'avoir une coordination. Et ça, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, l'a rappelé, en souhaitant qu'il y ait une stratégie de rebond au niveau européen pour relancer l'économie.
Ça, c'est de la relance, oui.
Bien sûr. Et moi, je pense que là encore, quand on est en bonne santé et qu'on en a les moyens financiers, c'est important de continuer à fréquenter les restaurants, les bars, les expositions, les musées, pour faire en sorte que la vie économique de notre pays ne s'arrête pas.
Alors justement, vous le disiez, on a un très bon système en matière médicale. On a les meilleurs épidémiologistes. On est le pays de Pasteur qui a vaincu la rage. Et donc, est-ce que cela, si cette crise passe et qu'il n'y a pas trop de morts, est-ce que c'est de nature recréer le lien entre les Français et le pouvoir politique?
Je ne veux pas faire de politique fiction et je ne veux surtout pas spéculer sur la question du coronavirus.
Non, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser, et Emmanuel Macron s'empêcher d'y penser.
Bien sûr, évidemment, c'est votre rôle aussi, mais moi, en tant que membre du gouvernement, je trouve que ce serait un peu indécent de dire je compte sur le coronavirus pour renouer la confiance. Moi, ce que je constate, c'est qu'à l'heure actuelle, chacun prend ses responsabilités. Le pouvoir politique prend ses responsabilités, je crois, du mieux possible, mais le système de santé français prend ses responsabilités. On a là un système qui est très efficace, très performant. On sait qu'il souffre, on sait qu'il y a des situations qui sont compliquées, notamment à l'hôpital public, mais on voit que là, les soignants font un travail remarquable de sang-froid, de soins, en première ligne, au cas par cas, et ça, je pense que ça peut être salué.
Alors, justement, peut-être une fois la crise passée, est-ce que ce sera l'occasion de se poser la question des moyens de l'hôpital public? On sait qu'en effet, il y a une crise, vous l'avez souligné. Un certain nombre de chefs de service se plaignent du manque de moyens, d'une part, et d'autre part, sur la souveraineté économique de la France dans des secteurs extrêmement importants, comme celui de la santé, avec les médicaments, dont on sait qu'aujourd'hui, ils sont pour la plus grande partie fabriqués en Chine. Oui, est-ce que ce débat-là, il va être urgent de se le poser, peut-être, dès que la page de l'épidémie sera tournée?
Ces débats, je crois que si on ne se les pose pas, ils s'imposeront à nous, dans tous les cas. Donc, effectivement, le ministre de l'économie, là encore, a lancé ce travail, la secrétaire d'État chargée de l'économie et de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, également, pour faire en sorte de voir, puisque cette crise met au jour le fait que nous sommes dépendants dans notre économie d'un certain nombre de pays sur un certain nombre de marchés. Exactement. Et donc, cela doit effectivement être mis à l'agenda. Et pour la question de l'hôpital public, je crois que là, il était clair pour toutes et tous qu'il y a une crise à l'hôpital public de longue date. Elle ne date pas d'hier, elle ne date pas d'Olivier Véran, elle ne date pas d'Agnès Buzyn non plus. Cette crise, elle existait avant, et je crois qu'effectivement, la question de l'hôpital public doit être posée, mais elle est prise en compte avec beaucoup de sérieux par ce gouvernement. D'ailleurs, Olivier Véran, dès son arrivée, a lancé une enquête auprès des personnels soignants de l'hôpital public où il a exercé et exercé encore jusqu'à son entrée au gouvernement, pour prendre véritablement la mesure de leurs attentes très concrètes. Et moi, je voudrais dire un mot particulier sur les métiers féminisés, notamment les aides-soignantes, les infirmières, pour lesquelles, dans la réforme des retraites, nous avons fait rentrer une disposition avec une possibilité de départ à l'âge de 60 ans, quand ce métier très pénible et qui a des conséquences physiques a provoqué une incapacité d'environ 10%, ce qui sera constaté par un examen médical. Donc cette question, bien sûr, nous ne l'éludons pas.
Puisque vous évoquez les femmes, si Roselyne en est d'accord, Après, on parlera des municipales, mais...
J'avais une petite question sur la crise économique.
Mais moi, je suis plus à l'aise sur les femmes que sur la crise économique.
Allons-y, Non, c'est sur à cette crise sanitaire se rajoute la crise économique. Vous citiez Bruno Le Maire, il a prévenu que le virus allait amputer la croissance de plusieurs dixièmes de points en 2020. D'après vous, sur quelle base il dit ça, puisque par définition, on ne sait pas quelle proportion va prendre l'épidémie?
Je ne sais pas, très honnêtement. Moi, je ne suis pas ministre de l'économie et des finances. C'est pas du tout mon domaine de spécialité, ni la bourse non plus. Je n'ai aucune action, je ne spécule pas. Je ne suis pas du tout en mesure de vous donner des recommandations ou des informations sur ce sujet. J'imagine que si ministre de l'économie et des finances le dit, c'est qu'il est précisément documenté.
Alors, les femmes, ça, c'est votre cause.
Absolument.
Vous vous êtes déclarée choquée par la brutalité dont ont fait preuve les forces de l'ordre contre des militantes féministes à Paris samedi soir. Vous avez indiqué que vous en aviez immédiatement parlé à votre collègue ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Première chose, est-ce qu'il vous a fourni des explications satisfaisantes?
Alors d'abord, moi je voudrais dire que j'ai découvert des vidéos courtes de quelques secondes, minutes sur les réseaux sociaux dans lesquelles on voyait notamment des jeunes femmes se faire tirer par les cheveux
au sol
dans le métro, et c'est cela qui m'a choquée comme image. En tant que femme, en tant que féministe, en tant que mère de famille aussi, parce que ma fille est bientôt en âge d'aller faire des manifestations, je ne doute pas qu'elle ira, et donc je veux qu'elle puisse le faire en toute sécurité. Et je crois qu'en France, en 2020, toute femme, quelle que soit son orientation politique, militante, autre, à toute heure du jour et de la nuit, doit pouvoir manifester en toute sécurité. Donc oui, cela m'a choquée, je l'ai dit et je le redis, mes propos ont été déformés, donc je tiens à
oui, parce que vous aviez dit en même temps, il semblerait que le parcours de la manifestation n'ait pas été respecté, donc ça semblait...
Pas du tout, j'ai dit
finalement dédouaner les forces.
Non, pas du tout, j'ai dit cela et on m'a demandé si le rapport commandé par le ministre de l'Intérieur était sorti. Ce à quoi j'ai répondu oui, le rapport est sorti, et on m'a demandé qu'indique ce rapport. Et j'ai répondu, ce rapport indique, de point ouvrir les guillemets, je cite, comme le tracé n'a pas été respecté et que les personnes sont restées sur site, en dehors du tracé, avec des agressions vis-à-vis des forces de l'ordre, etc., nous avons, nous étant la police citée dans ce rapport, pris l'initiative d'évacuer la manifestation. Je cite là le rapport, ce ne sont pas mes propos. Et moi, je suis assez honnêtement... interloqué par le fait que certains responsables politiques, notamment d'extrême gauche, un peu de gauche qui leur courent après, s'en prennent à moi pour le 8 mars, alors que depuis 20 ans, je défends les droits des femmes et que très souvent, je les ai défendus très seuls, sans le concours de ces hommes-là, qui instrumentalisent le 8 mars, non pas pour défendre les femmes, mais pour taper sur le gouvernement et me rendre responsable de faits auxquels je n'ai ni participé, ni assisté, et ni évidemment cautionné.
Est-ce que vous émeuvez aussi de certaines, entre guillemets, violence policière qui a pu avoir lors de manifestations, soit avec les gilets jaunes, soit lors de manifestations contre la réforme des retraites, où vous dites les femmes, on touche pas à une femme.
Mais je pense que oui, je pense qu'on touche pas à une femme, et particulièrement à une jeune femme, et particulièrement à des jeunes femmes qui viennent se réapproprier.
C'est très ancien monde, ça.
Oui,
on touche pas aux femmes.
Non, pas du tout. Je vous explique pourquoi. Parce que là, on a des femmes qui viennent dire « Nous avons été victimes de violences sexistes et sexuelles. » Et nous venons le crier la nuit parce que nous ne trouvons pas d'autre endroit où le dire. Et je pense que quand une femme vient dire qu'elle manifeste contre les violences et pour l'intégrité de son corps, elle fait un acte de reconstruction et de résilience. Et je pense, en tant que personne qui a accompagné des victimes pendant près de 20 ans, que c'est pas tolérable, que c'est pas supportable de recréer des actes de violence vis-à-vis de ces femmes. Maintenant, pour contextualiser, je voudrais dire aussi, et je souhaite que mes propos ne soient pas tronqués les uns les autres, parce que le raisonnement va dans son ensemble, je voudrais dire aussi que je m'attache à faire en sorte que le lien de confiance entre les femmes et les forces de l'ordre existe, et que chaque jour, et c'est la vérité, je sais qu'une partie de la population ne veut pas l'entendre, mais c'est la vérité, chaque jour, les forces de l'ordre prennent en charge plus de 200 cas de violences sexistes et sexuelles, et très souvent sont en première ligne pour protéger les femmes face aux violences conjugales. Oui. Il faut le dire aussi, je pense
Mais ces violences policières, elles sont à dénoncer si elles sont faites contre les hommes.
Il faut dénoncer les exactions, et il y a eu des demandes à chaque fois, de sanctions de la part du ministre dès lors qu'il y a débordement, quelle que soit la personne. Il y a des demandes de sanctions. Ce n'est évidemment pas acceptable, mais c'est une chose. Et là, je parle d'autre chose. Et je déplore que ce 8 mars soit instrumentalisé et qu'on ait finalement très peu parlé de la question des droits des femmes. D'ailleurs, je voudrais terminer là-dessus. Dire qu'il y a des anciennes prostituées qui ont été agressées et frappées en marge des manifestations, qu'une effigie de Brigitte Macron a été brûlée en marge d'une manifestation à Nice, et que dans certains cortèges, il y a eu des menaces de violence dans ma direction et dans celle de ma famille. Donc je pense qu'on a eu là un 8 mars qui sincèrement a fait l'objet d'une récupération politicienne. Le 8 mars, on défend les droits des femmes, y compris des femmes quand elles sont mariées avec le président de la République, députées au gouvernement ou des anciennes prostituées.
Alors, une question Marlène Schiappa et ensuite une petite séquence de ce qui s'est passé aujourd'hui au Parlement européen. Rapidement, votre collègue ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dimanche a dit, je la cite à propos de l'égalité homme-femme, tant qu'on ne sera pas à l'égalité, il y aura peut-être des choses excessives, ça n'est pas grave, il ne faut rien lâcher. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que dans ce domaine, l'excès est permis?
Moi, je suis très en phase avec Muriel Pénicaud sur ce que nous portons ensemble sur les questions de l'égalité salariale. Qu'est-ce qu'on met derrière les mots?
Oui.
C'est très important.
Et derrière, dans l'excès.
Et qu'est-ce qu'on met derrière l'excès? Moi, je crois que, pour connaître l'engagement de Muriel Pénicaud, je pense qu'elle parle là de la question des quotas, de revendication de place des femmes dans le monde de l'entreprise ou de la manière dont on écoute la parole des femmes. Et je suis évidemment tout à fait d'accord avec elle. Et je pense que Muriel Pénicaud et moi, je m'engage un peu, je parle pour elle, mais je pense que nous sommes aussi d'accord sur le fait que si derrière le mot excès, on prend certains slogans qu'on a entendus comme « un homme, une balle, justice sociale » pendant des cortèges du 8 mars, non, là, ça n'est pas acceptable, je suis désolée. Les slogans disant que tous les hommes doivent mourir, un bonhomme est un homme mort, etc., je ne suis pas d'accord. Le féminisme, ça n'a jamais été la détestation des hommes, c'est le fait de partager de manière apaisée un même espace dans l'égalité, les femmes et les hommes.
Alors, Marlène Schiappa, rapidement, une petite séquence, c'était aujourd'hui au Parlement européen, la députée Manon Aubry a pris cette initiative. On va la regarder et l'écouter.
Permettez-moi de m'adresser à vous, habillée en Rosie la Rifteuse, icône du combat féministe et symbole en France de la mobilisation actuelle des femmes. Ce bleu de travail, ce foulard rouge et ces gants de ménage jaunes, nous sommes des milliers de femmes à l'avoir porté dimanche dernier pour la Journée internationale des droits des femmes. Alors soyez prévenus, nous ne nous tairons plus et nous n'attendrons plus l'égalité qui nous est due. Et nous continuerons de reprendre en cœur l'hymne des femmes. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Alors, Marlène Schiappa, est-ce que vous vous sentez en phase avec ce geste?
Vous savez, moi, j'ai un principe et j'essaye de m'y tenir. C'est pas toujours facile, mais j'essaye de m'y tenir. Je dis que les femmes politiques sont tellement attaquées tout le temps, tellement moquées tout le temps, que je pense que si, entre féministes, on pouvait éviter de s'attaquer à Dominem, de s'attaquer nommément et de se moquer les unes les autres...
Anne Moulirem, en
on ferait peut-être... Pardon ?
Anne Moulirem, non, pardon, c'est pas grave.
Non, mais voilà, donc j'ai pas... Chacun se fera son avis. Après, plus politiquement, peut-être, on n'entend pas de revendications claires ou d'actions claires derrière. Moi, je partage, évidemment, le constat...
En tout cas, vous voulez pas le tourner en dérision, quoi.
Non, j'ai pas envie, ça sert à rien. Il y a assez d'antiféministes qui vont se moquer, je veux pas rajouter quelque chose là-dessus. Néanmoins, je pense qu'on gagne à avoir des revendications claires et à porter des actions claires au Parlement européen. On peut porter des mesures concrètes et je pense que c'est ce qu'on attend de députés européens.
On est arrivé au terme de cette émission. Merci.
Merci Marlène Schiappa d'avoir été notre invitée. Merci Frédéric. On vous retrouve pour votre émission chaque matin à 7h50 sur RFI.
RFI se décline en deux.